BW. Vue d'Allemagne.
L'Allemagne entend bien poursuivre sa politique de refoulement de demandeurs d'asile aux frontières malgré une décision de justice qui a jugé cette pratique illégale. Les détails dans un instant. En deuxième partie, direction l'Italie où la lutte contre la mafia et le crime organisé commence déjà à l'école. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen et bienvenue. C'est un camouflet pour le gouvernement de Friedrich Merz et sa politique d'asile. Le tribunal administratif de Berlin a jugé illégal le refoulement à la frontière polonaise de 3 Somaliens qui avaient demandé l'asile en Allemagne. Les deux hommes et la jeune fille de 16 ans étaient arrivés en train de Pologne le 9 mai. Ils ont été arrêtés par la police à la gare de Francfort-sur-l'Oder dans le cadre d'un renforcement des contrôles aux frontières. Leur demande d'asile a tout simplement été ignorée par les policiers qui les ont reconduits à la frontière. L'association Pro-Asile a soutenu la procédure d'urgence engagée pour contester leur renvoi. Karl Kopp, directeur général de l'organisation, explique les détails de l'affaire.
Ces trois personnes, originaires de Somalie, dont une mineure, ont été refoulées trois fois en peu de temps. Et les deux premières fois, la police fédérale a déclaré qu'aucune demande d'asile n'avait été exprimée. La troisième fois, une demande d'asile a été déposée par un avocat, mais les trois ont quand même été refoulées. Nous pouvons donc dire que par trois fois, le droit élémentaire de déposer une demande de protection a été bafoué. Et ceci malgré le fait que la jeune fille avait de graves problèmes physiques, comme des blessures aux pieds. Il y a donc plusieurs choses qui s'additionnent. On a ignoré le droit européen et on a en outre complètement ignoré les critères humanitaires.
Le tribunal administratif de Berlin a donc jugé que la procédure de refoulement était contraire aux droits allemands et européens. Avant d'envisager une reconduite à la frontière, les autorités allemandes auraient dû examiner si les demandeurs d'asile étaient passés au préalable par d'autres pays de l'UE afin de déterminer quel État membre est responsable de la demande d'asile. C'est ce que prévoit le règlement dit de Dublin.
La Pologne n'était pas le premier pays de destination, mais les trois personnes ont indiqué qu'elles étaient entrées par la Lituanie après avoir été refoulées à plusieurs reprises à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie par ce qu'on appelle les pushbacks, qui constituent d'ailleurs une violation du droit international. Ils sont entrés, selon leur dire, par la Lituanie et ont traversé la Pologne et ont été enregistrés pour la première fois en Allemagne à la frontière germano-polonaise par la police fédérale. Par conséquent, la Pologne n'était pas non plus compétente selon les règles de Dublin.
Von daher wäre Polen auch nach den Dubliner Regelungen nicht zuständig gewesen.
Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a confirmé lors d'un point de presse que la décision du tribunal serait appliquée, mais il a réaffirmé que le gouvernement continuerait à appliquer sa politique de renvoi systématique aux frontières.
Nous maintenons par ailleurs les refoulements. Nous constatons que la base juridique est donnée et nous continuerons donc à procéder de la sorte, tout à fait indépendamment de cette décision individuelle.
Selon le ministre de l'Intérieur, 2850 migrants ont été refoulés aux frontières depuis le 8 mai, un afflux que l'Allemagne n'est, d'après lui, pas en mesure de gérer.
L'objectif est d'envoyer un signal clair que nous continuerons à maintenir que l'Allemagne ne peut pas faire face à ce nombre élevé de nouveaux arrivants, de demandeurs d'asile et de réfugiés, et que ces rejets continueront donc à avoir lieu.
Avant le tour de vis du gouvernement de Friedrich Merz, le refoulement ne concernait que les personnes qui n'avaient pas déposé de demande d'asile et les étrangers frappés d'une interdiction temporaire d'entrée sur le territoire, par exemple en raison d'une expulsion antérieure. Mais le gouvernement a fait de la lutte contre la migration irrégulière sa priorité et invoqué dans sa défense, devant le tribunal de Berlin, une situation d'urgence nationale justifiée par un nombre trop élevé de demandeurs d'asile. Un point que le tribunal a rejeté, à juste titre, estime Franz Mayer. Il est professeur de droit constitutionnel à l'université de Bielefeld.
C'est un niveau de saturation ressenti et il ne correspond pas à la réalité. Le nombre de demandes d'asile est en baisse en Allemagne. Et ensuite, il n'est pas prouvé du tout qu'un effondrement de l'ordre public en Allemagne qui justifie la situation d'urgence nationale soit imminent. Et enfin, indépendamment du constat d'un trop ressenti, il y a les promesses électorales qui promettent un changement de politique en matière d'asile.
Le chancelier Merz a voulu ainsi tenir une de ses principales promesses de campagne, celle de réduire l'immigration dans le pays, avec l'objectif affiché de contrecarrer l'extrême droite sur son propre terrain. Karl Kopp, de Pro-Asile, y voit une tendance inquiétante.
C'est très irritant et effrayant de voir que dans un état de droit, le ministre fédéral de l'Intérieur, qui est aussi garant de la Constitution, traite le droit et les tribunaux de cette manière. Dans un état de droit, même un ministre fédéral de l'Intérieur doit se conformer au droit européen international et national. Et Dobrindt ne le fait pas.
Franz Mayer estime pour sa part qu'essayer de rapprocher le juridique du politique est une stratégie risquée.
C'est très dangereux car un mépris ouvert du droit menace la stabilité non seulement de la communauté du droit en Europe, dans laquelle nous sommes mutuellement dépendants du respect du droit, mais ce sont aussi les fondements même de l'état de droit qui sont en jeu. Or, on peut voir aux États-Unis avec Trump ce qui se passe lorsque le droit devient de plus en plus une valeur arbitraire. C'est l'arbitraire qui finit par régner.
La multiplication des contrôles et le refoulement des demandeurs d'asile aux frontières ne sont qu'un des aspects du durcissement de la politique migratoire de l'Allemagne. Le gouvernement Merz a également décidé de suspendre le regroupement familial pour les réfugiés qui n'ont qu'un statut subsidiaire et de supprimer le mécanisme de naturalisation accélérée mis en place par son prédécesseur. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et comme promis, on se rend en Italie où la lutte contre la criminalité organisée passe aussi par les écoles. En Calabre, fief historique de la redoutable 'Ndrangheta, l'association culturelle BS sensibilise depuis 2019 les lycéens au phénomène avec son programme Libre de choisir, justice et humanité. Pendant des mois, ils ont étudié le livre du magistrat sicilien Roberto Di Bella qui propose aux fils de mafieux d'expérimenter une nouvelle vie loin de leur terre et de leur famille. Une manière de promouvoir l'éducation à la légalité, mais surtout de combattre la mentalité mafieuse qui imprègne encore certains territoires du sud du pays. Fin mai, les participants de l'année étaient invités à se réunir à l'école des élèves carabiniers de Reggio de Calabre, dans le sud du pays. C'est un reportage de notre correspondante Cécile Debarge.
Il est 10h30 environ quand l'hymne italien résonne dans l'amphithéâtre plein à craquer de l'école des élèves carabiniers. Près de 1000 lycéens attendent ce moment depuis des mois. C'est la remise des prix du projet Libre de choisir, justice et humanité.
On vit une réalité assez difficile, en particulier nous, les Siciliens et les Calabrais. Et donc ce projet contre l'omerta et contre la criminalité organisée, c'est très important pour nous et pour les jeunes de toute l'Italie.
Daniele est un lycéen sicilien. Le court-métrage qu'il a réalisé avec ses camarades de classe vient d'être primé. Il est l'un des milliers d'élèves à avoir participé au projet Libre de choisir, justice et humanité qui s'inspire du parcours et du livre du juge pour enfants Roberto Di Bella. C'est l'histoire vraie de dizaines d'enfants et d'adolescents calabrais éloignés de leur famille mafieuse pour découvrir une vie nouvelle, loin des valeurs de la criminalité organisée. Bruna Siviglia est la présidente de l'association BS à l'origine du projet.
Que prévoit ce projet et pourquoi est-ce qu'il a aussi bien marché? Parce qu'on a imaginé un programme avec la lecture du livre, le visionnage du film et ensuite une rencontre avec le juge Di Bella lui-même, avec des personnalités du monde du journalisme, de la magistrature et avec les forces de l'ordre.
Ensuite, les lycéens ont produit des chansons, des courts-métrages, des dessins ou des poèmes sur le thème de la criminalité organisée pour un concours national, comme par exemple cette chanson de rap dont le titre est « Ça n'en vaut pas la peine ». Les auteurs sont tous de jeunes garçons, adolescents, qui vivent actuellement dans un foyer pour mineurs délinquants en Calabre, comme celui qui a voulu mettre en garde les autres lycéens.
Les amis, c'est quelqu'un qui vit ça qui vous le dit, vraiment, la délinquance, ça n'en vaut pas la peine.
Depuis sa création, le projet a rassemblé plus de 200 000 élèves du nord au sud de l'Italie. En 2023, la région Calabre en a fait une loi régionale. Désormais, tous les lycéens de la région doivent lire le livre et regarder le film en classe. Une petite révolution culturelle dans une région où parler ouvertement de 'Ndrangheta, la mafia calabraise, n'avait rien d'une évidence. Maria Natalia Eriti est la proviseure du groupe scolaire Pascoli Alvaro à Siderno en Calabre.
L'Ndrangheta est molto radicata nel nostro territorio.
L'Ndrangheta est très enracinée dans nos territoires et même les gens qui n'en font pas partie ont des comportements d'omerta. Ils regardent de l'autre côté, font semblant de ne pas voir, donc ce sont des comportements qui s'inscrivent dans un contexte mafieux.
Son établissement participe au projet depuis 2 ans. Madame Morello est la référente en éducation civique de l'établissement.
Aujourd'hui, ce type de projet est possible car il y a une forte collaboration entre l'école et l'État. Donc les familles commencent à comprendre que l'État est un ami et non pas un ennemi, juste là pour demander des impôts, donner des amendes. Les gens commencent vraiment à comprendre ce que l'État peut faire et notamment dans la formation des jeunes.
Le président du tribunal pour enfants de Catane, le juge Roberto Di Bella, à l'origine du projet Libre de choisir, n'a de cesse de le répéter. Ce volet culturel est le prolongement du volet judiciaire sur lequel il œuvre. Bruna Siviglia.
La justice ne peut pas être seulement répressive. Il faut travailler en amont et parmi les centaines de milliers de jeunes que nous avons rencontrés au cours de ces 6 ans, il y a eu des histoires très touchantes de certains jeunes qui ont pu se libérer en écrivant des textes. Les proviseurs nous ont raconté aussi que grâce à ce projet, les jeunes commencent à réfléchir et ne se sentent plus seuls. On essaie vraiment de secouer leur conscience.
Cerchiamo ecco di scuotere le loro coscienze.
L'adjointe à l'éducation publique de Calabre, Maria Stefania Caracciolo, mesure elle aussi le chemin parcouru.
Nos écoles sont notre fierté, notre voie pour améliorer le tissu social de notre région. J'en profite pour saluer les écoles venues du nord de l'Italie et bravo à vous, car malheureusement, on sait que la mafia ne se limite pas à notre région. Désormais, elle est partout.
Cette année, pour la première fois, le projet a dépassé les frontières italiennes et s'est exporté en Allemagne. 70 écoles de Stuttgart ont participé au projet. Elles devraient être encore plus nombreuses à la rentrée prochaine. Cécile Debarge, Reggio de Calabre pour la DW.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. La semaine prochaine, vous retrouverez Relio Koubakin. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!